À l'écoute de RFI, Radio France Internationale, il est 20h à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Vous êtes au cœur des RFI Soir, les grandes sessions d'information du soir, avec un nouveau journal, Le Grand Journal. Et c'est avec RFI vous, Christophe Paget. C'est l'heure du grand journal, donc, à la une, le torchon qui continue de brûler entre Donald Trump et Elon Musk.
Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Le président américain et l'homme le plus riche du monde devaient se parler aujourd'hui. Finalement, cela ne semble plus à l'ordre du jour, après les déclarations pourtant peu amènes, pour être poli, échangées hier sur les réseaux sociaux. Vincent Souriau fera le point dans un instant, c'est le dossier de ce 20h. En France, une plainte a été déposée ce vendredi pour meurtre et génocide. Plainte déposée par une grand-mère qui accuse les autorités israéliennes d'être responsables de la mort de ses deux petits-enfants français, âgés de 6 et 9 ans, à Gaza, en octobre 2023. À suivre le reportage de Théo Renaudon.
Toujours en France, Olivier Faure, hein, qui est réélu à la tête du Parti Socialiste.
Réélu de justesse. Il va falloir maintenant rassembler le parti avant les nouvelles échéances municipales et présidentielles. Et puis pour terminer ce journal, nous irons au festival Wheel of Green avec Edmond Sadaka, festival écolo et musical.
Commençons donc par ce divorce entre Donald Trump et Elon Musk, et il ne semble pas y avoir de rabibochage en vue.
On avait parlé d'un coup de fil, mais la Maison Blanche a déclaré que le président américain n'avait pas l'intention de parler à Elon Musk aujourd'hui. La rupture avait été assez spectaculaire hier sur les réseaux sociaux, les noms d'oiseaux ont volé, Elon Musk traité de fou, Donald Trump d'ingrat. D'un côté, un milliardaire libertarien et controversé, patron fantasque de 6 grandes entreprises, qui a financièrement largement contribué à la dernière campagne présidentielle du camp républicain et qui a fini par travailler d'ailleurs pour l'administration américaine. De l'autre, un président qui n'aime pas franchement la critique. Entre ces deux-là, il semble que ce soit fini. Vincent Souriau, bonsoir.
Bonsoir.
Une fin de partie en public et dans la douleur.
Oui, on s'y attendait, mais pas si vite. Hein. Tout le monde savait que ces deux gros égos ne pourraient pas cohabiter très longtemps. Mais le bouchon a sauté en quelques jours, à peine une semaine, puisqu'Elon Musk s'est retiré de ses fonctions officielles vendredi dernier. Il a quitté le Doge, le fameux organe chargé de couper à la serpe dans les dépenses publiques américaines. Et il a retrouvé dans le même temps sa liberté de parole, son crime de lèse-majesté. Vous l'avez dit, Christophe, aura été de critiquer le projet de loi de finances de Donald Trump dans un tweet rageur. C'était déjà avant-hier, hein, mais on croirait y être encore. Musk a tiré au bazooka sur ce texte fiscal qui prévoit des cadeaux fiscaux pour les classes moyennes. Ce texte, écrivait-il, est scandaleux, dégoûtant, abomination, excédé Musk par un budget qui va donc alourdir la dette américaine de plusieurs milliers de milliards de dollars.
Sauf que ce projet de loi, Vincent, c'est le bébé de Donald Trump qui n'a pas du tout apprécié la fraude.
Et qu'il a fait savoir dans le bureau ovale alors qu'il recevait le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, les désormais fameux rendez-vous diplomatique de Donald Trump devant les caméras. À ce moment-là, la mayonnaise commence à prendre. Donald Trump se dit surpris, il se demande devant les journalistes si Musk et lui pourront à l'avenir conserver la bonne relation, et il place aussi un petit crochet du droit. De toute façon, je pense que sans son soutien, j'aurais tout de même gagné l'élection présidentielle.
Et c'est là que les coups commencent à voler.
Visiblement, Elon Musk a regardé cette séquence. En l'espace de quelques heures, il a tout lâché. Il a semblé suggérer que Trump soit démis de ses fonctions. Il a prédit que les nouveaux tarifs douaniers allaient plonger l'Amérique en récession. Il a lancé l'idée de créer un parti politique. Et il a même fini par affirmer que le nom de Trump apparaissait dans le dossier Jeffrey Epstein, une affaire de prostitution et de pédocriminalité. Réponse du président sur son propre réseau social. Elon est devenu fou. En résumé, rupture en apparence très brutale d'un partenariat qui a divisé les républicains.
Et qui se sont, dans leur large majorité, rangés derrière le président.
Oui, Musk a beau rester l'homme le plus riche du monde, surfer sur l'écho de ses 220 millions d'abonnés sur X, c'est à la Maison Blanche que ça se passe, et les politologues américains y voient surtout du théâtre pour l'instant. On attend de voir, par exemple, si les menaces de Trump mettre fin aux contrats fédéraux des entreprises d'Elon Musk sont vraiment suivies d'effet.
Merci Vincent Souriau.
Venons-en à l'actualité au Proche et au Moyen-Orient. Tout d'abord, la direction du Liban avec Israël qui continuera de viser Beyrouth si le Hezbollah n'est pas désarmé.
Oui, la menace vient du ministre de la Défense israélien Israël Katz après la série de frappes israéliennes hier soir sur la banlieue sud de la capitale libanaise. Et ce sont les frappes les plus violentes contre ce bastion de la milice islamiste depuis le début du cessez-le-feu qui avait mis fin à un an de conflit. Après l'attaque, le président libanais Joseph Aoun a dénoncé une violation flagrante du cessez-le-feu.
Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes ont tué aujourd'hui au moins 16 Palestiniens.
Ça s'est passé dans le quartier de Toufa, dans la ville de Gaza, et dans les secteurs de Jabalia et Ram Younes. Et aujourd'hui, l'armée israélienne a ordonné aux habitants d'évacuer certains quartiers du nord de la bande de Gaza. Pendant ce temps, en France, une plainte contre X était déposée pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Jacqueline Rivaud accuse les autorités israéliennes d'être responsables de la mort de ses deux petits-enfants français âgés de 6 et 9 ans à Gaza. C'était en octobre 2023. Ils étaient avec leurs parents, réfugiés dans une maison, quand cette maison a été frappée par des avions de guerre israéliens. Ce vendredi, Jacqueline Rivaud a déposé sa plainte, accompagnée de la Ligue des droits de l'homme. Théo Renaudon l'a rencontrée.
Il y a eu un premier missile qui est tombé au-dessus de la maison.
Regard perdu, voix nouée. Jacqueline Rivaud se souvient encore du message de sa fille pour la prévenir. Ses deux petits-enfants, Jana et Obaïda, ont été tués dans un bombardement israélien.
Il y a eu un deuxième missile, cette fois, qui est rentré par la fenêtre de la chambre où étaient Yasmine et les enfants. Moi, je me suis retrouvée dévastée quand j'ai appris le décès des enfants. Je ne voulais pas y croire. Il a fallu que j'entende deux fois le message de Yasmine qui me disait Jana et Obaïda sont morts.
La plainte déposée servira à faire toute la lumière sur l'attaque, mais ce n'est pas le seul objectif. Ari Halimi, avocat de la famille.
Si une plainte déposée en France par une grand-mère peut avoir comme impact de faire lancer des mandats d'arrêt internationaux contre tous ceux qui peuvent être complices ou auteurs de ces faits, alors il y aura une dissuasion politique. Peut-être qu'on pourra rejoindre le flot des initiatives et peut-être, nous l'espérons en tout cas, faire cesser ces opérations militaires qui tuent la population de Gaza.
Normalement, dès qu'un enfant français meurt à l'étranger, la justice ouvre automatiquement une enquête. Ça n'a étrangement pas été le cas ici, remarque l'avocat.
Un reportage signé Théo Renaudon.
Dans l'actualité du monde, l'Union européenne qui regrette profondément les sanctions des États-Unis contre des magistrats de la Cour pénale internationale.
Oui, hier, Washington a sanctionné 4 magistrates de la CPI. Les États-Unis estiment que leurs procédures, qui visent des soldats américains ou encore l'exécutif israélien, sont illégitimes et politisées. Ces magistrates sont dorénavant visés par des interdictions d'entrée sur le sol américain et le gel d'avoirs détenus aux États-Unis. Des mesures qui visent habituellement des criminels ou les dirigeants de pays adverses.
Les Pays-Bas annoncent des élections anticipées, ce sera le 29 octobre.
Et c'est la suite logique de la chute du gouvernement néerlandais, chute provoquée avec fracas en début de semaine par Geert Wilders. Le dirigeant d'extrême droite affirmait ne pas avoir les moyens de mener sa politique anti-immigration. Ces nouvelles élections, c'est un pari risqué pour son parti, le PVV, car si lors des dernières élections, il avait remporté le plus grand nombre de sièges au Parlement, aujourd'hui, il est talonné dans les sondages par la gauche et les libéraux. Daniel Valo.
En remportant 37 des 150 sièges du Parlement néerlandais, Geert Wilders avait créé la surprise en novembre 2023. Mais le dirigeant du PVV n'avait pu accéder alors à la fonction de Premier ministre comme il le souhaitait, les 3 autres partis qui ont accepté de gouverner avec lui ayant refusé de lui accorder le poste. Officiellement, Geert Wilders s'est retiré du gouvernement pour dénoncer son inaction sur les questions d'immigration. Mais les principaux dirigeants politiques du pays l'accusent de s'être servi de cette question pour provoquer ces nouvelles élections et de l'avoir fait pour éviter de trop baisser dans les intentions de vote. De fait, la popularité du dirigeant d'extrême droite s'est érodée depuis que son parti est au pouvoir et Geert Wilders est désormais au coude à coude avec la gauche et les écologistes emmenés par Frans Timmermans, l'ancien commissaire européen. La partie sera donc serrée pour le PVV et d'autant plus délicate pour son flamboyant chef de file qu'en mettant fin à l'actuelle coalition, pour une raison considérée comme étant artificielle, il risque d'avoir les plus grandes difficultés à former de nouveau une alliance, ce qui reste indispensable aux Pays-Bas pour accéder au gouvernement.
La Russie parle de la guerre en Ukraine comme d'un conflit existentiel.
Oui, c'est une réponse aux déclarations de Donald Trump qui comparait hier cette guerre à une bagarre dans un parc entre deux jeunes enfants. Une déclaration qui intervient alors que la nuit dernière, Moscou a massivement bombardé l'Ukraine. 407 drones et 45 missiles ont frappé 9 régions du pays, faisant au moins 4 morts et une cinquantaine de blessés. Une attaque présentée par Moscou comme une riposte à celle menée le week-end dernier par l'Ukraine.
Tout autre chose, les 27 pays de l'UE se sont mis d'accord pour, entre autres, réduire l'indemnisation des passagers en cas de retard d'avion.
L'accord doit encore être discuté au Parlement européen. Actuellement, les passagers peuvent réclamer jusqu'à 600 euros pour un retard d'avion de plus de 3 heures et les compagnies aériennes parlent de charges financières excessives. L'accord change les règles. Pour les trajets moyens, la compensation est réduite de moitié et c'est à partir de 4 heures de retard. Colère des associations de consommateurs qui parlent plus largement d'un retour en arrière sur les droits des passagers aériens. Steven Berger du Bureau européen des unions de consommateurs.
Il y a deux exemples que je pourrais mentionner à ce stade-là. C'est très clairement la compensation. Un autre point qu'on voit comme problématique, c'est le transport des bagages à main. Ce que les États membres ont proposé hier, c'est de dire, ok, si vous amenez votre sac à main, ce qu'on appelle un petit sac, celui-ci sera gratuit. Par contre, si vous amenez votre sac à dos, ou si vous amenez une petite valise, comme c'est le cas d'énormément de consommateurs, hein, la grande majorité, les compagnies aériennes auront le droit de le facturer. Donc là, on revient en arrière pour nous sur des droits fondamentaux des consommateurs. Sur la proposition et la position des États membres hier, dont la France, ce qui a été ne nous satisfait pas. Plutôt que de diminuer les droits, on devrait simplement mieux les appliquer, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, sont des lignes rouges qu'on aimerait voir, bien sûr, gommer pendant les négociations avec le Parlement européen dans les prochains mois.
Steven Berger, joint par Agnieszka Kumor.
La politique en France, Olivier Faure, réélu à la tête du Parti Socialiste.
De justesse, 50,9% des voix contre 49,1% pour son adversaire, Nicolas Meyer-Rossignol, qui a reconnu sa défaite. C'est le quatrième mandat d'Olivier Faure à la tête du PS, qu'il dirige depuis maintenant 2018. Un parti qu'il va devoir maintenant rassembler, tout le monde ne s'accorde pas sur la ligne stratégique à adopter en vue d'abord des municipales et ensuite de la présidentielle de 2027.
Et il en sera question dans Dimanche Politique, dimanche soir bien évidemment, à 20h sur RFI. À Nice, dans le sud de la France, s'est terminé le congrès One Ocean Science.
Qui a réuni des scientifiques du monde entier. L'objectif de ce rendez-vous, c'était en quelque sorte d'être le pilier scientifique de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Ce sera la semaine prochaine, toujours à Nice. Et pour faire le lien entre le congrès et la conférence, seront officiellement remises dimanche des recommandations scientifiques autour du climat, de la pêche illégale, de la biodiversité ou encore de la pollution plastique. Les scientifiques appellent à agir vite. Envoyé spécial à Nice, Pauline Glaise.
À quelques heures de la clôture sur les quais du port de Nice, des congressistes cherchaient une petite place pour glisser leur signature sur le panneau affichant le manifeste. Sur certains aspects, le texte souligne qu'il n'y a plus le temps d'attendre. François Houllier, coprésident du Congrès scientifique, appelle à l'action et même à la réaction.
Quand on voit l'ampleur des risques, des menaces auxquelles l'océan fait face, business as usual, ça ne marchera pas. Nous aurons des vagues de chaleur, on perdra la totalité des écosystèmes coralliens si nous continuons. On a déjà perdu des espèces, on n'avait pas encore perdu d'écosystèmes globaux. Il faut réagir, donc on va continuer à dire ces choses-là qui ne sont pas des opinions, qui sont des faits.
Parmi les legs de la conférence des Nations Unies sur l'océan figurera une déclaration politique finale. Un texte est déjà négocié. Jean-Pierre Gattuso, autre coprésident du One Ocean Science, identifie peu de recommandations dans le projet de déclaration.
On en voit un petit peu, mais celles qui ont le plus de PEPS ne sont pas là.
Mais il ne se décourage pas.
Le plan d'action de Nice ne comprend pas que cette déclaration. Il comprend aussi des engagements des pays sur différents sujets.
L'enjeu sera notamment de savoir combien de pays vont ratifier le traité de la haute mer. Pauline Glaise, Nice, RFI.
Le Japon allonge la durée de vie de ses centrales nucléaires. Maintenant, elles pourront continuer à fonctionner au-delà de leurs 60 ans. C'était une limite qui avait été fixée après la catastrophe de Fukushima en 2011. Le Japon veut revenir aujourd'hui à l'énergie atomique. Il vise la neutralité carbone d'ici 2050. Mais depuis la fermeture de la plupart de ses réacteurs nucléaires après Fukushima, il reste très dépendant des combustibles fossiles.
Terminons ce journal avec l'un des premiers grands festivals musicaux de l'été en France.
Oui, Wheel of Green a lieu en ce moment et jusqu'à dimanche soir, au Bois de Vincennes, c'est dans l'Est parisien. Wheel of Green, on aime le vert, est réputé à la fois pour son engagement écologique et puis pour sa programmation variée entre découvertes, valeurs sûres et même superstars internationales. Cette année, outre les rappeurs confirmés Tiakola, Vald ou SDM, on pourra y entendre entre autres le duo français R ou le nouveau phénomène musical de l'année, la jeune chanteuse belgo-congolaise Théodora. L'an dernier, le festival avait attiré 110 000 spectateurs en 3 jours. Edmond Sadaka.
C'est elle, la Britannique Charlie XCX, qui est la grande tête d'affiche de ce festival. C'est son unique concert en France d'ailleurs, d'où la fierté du programmateur de Wheel of Green, Clément Meyer.
C'est la star internationale la plus publicitée, donc c'est sa date unique en France et sa première date après la sortie de son album, Brat, qui est un des albums phares de l'année 2024, donc on l'attend depuis un an pour l'avoir en France. Parce qu'il faut être le premier des fois à pouvoir proposer certains artistes qui sont très excitants, et c'est un processus qui se fait de plus en plus en avance depuis le Covid.
du rap à la pop, en passant par la house, le reggaeton ou encore la musique électronique. Will of Green a l'habitude de défricher les tendances de demain. Des artistes comme PNL ou Aya Nakamura y ont donné leur premier concert en festival avant de devenir les stars que l'on connaît. Parmi les autres temps forts de cette édition 2025, la prestation que donneront ce dimanche des vétérans du rock, les Américains de LCD Sound System.
Et pour finir, Philippe, toujours en France, un mot du bac. Pour nous, c'était il y a un certain temps, on va dire. Pour d'autres, c'est très bientôt. Figurez-vous que le plus jeune candidat cette année a, tenez-vous bien, 8 ans. Il est inscrit en candidat libre, on n'en sait pas plus. L'an dernier, c'est une candidate qui était la plus jeune, 9 ans. C'était dans l'académie de Strasbourg, dans l'est de la France. La suite de RFI Soir, c'est avec Philippe Le Caplain.
Christophe Paget qui revient à 22h pour d'autres informations. Dans l'immédiat, les sports. Avec bien sûr Sofiane Amazion du tennis. Les demi-finales masculines au programme du côté de Roland-Garros. Duel au sommet en ce moment même. Novak Djokovic fait face à l'Italien Yannick Sinner.
Oui, un duel de haute volée, Philippe, pour une place en finale. Deux joueurs en pleine possession de leurs moyens qui réalisent pour l'instant un grand tournoi. On va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux du côté de la Porte d'Auteuil. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir messieurs.
Eric, c'est l'Italien Yannick Sinner qui a pris la première manche.
Ouais, le plus jeune est devant. Yannick Sinner sur la lancée de ses tours précédents. Il a expédié ses 5 premiers adversaires sans perdre le moindre set. Il en a enchaîné un nouveau 6-4 face à Novak Djokovic, qui fait un petit peu son âge, même s'il il donne tout, il tente tout face au numéro 1 mondial, mais pour l'instant la barre est un petit peu trop haute, il est loin d'être ridicule. Novak Djokovic met une petite faute par-ci, par-là, un petit coup de rein qu'il n'a plus trop comme avant, et puis bah ça fait cette petite différence. Il essaye des amortis, des coups slicés, surprendre son adversaire, essayer de casser son rythme infernal, cette cadence incroyable imposée par l'Italien, mais pour l'instant Novak Djokovic qui semble monter un petit peu en puissance. Pour l'instant il tient le coup dans le deuxième set, 2-1 en faveur du Serbe. L'Italien est au service, ça pourrait nous emmener loin cette partie. En tout cas le public a envie de voir un énorme combat ce soir,
et on suivra ça. Merci beaucoup Eric Mamrut. À noter que la finale masculine se jouera dimanche. On peut noter aussi la qualification de l'Italien Carlos Alcaraz pour cette finale. Demain, place à la finale dame, Philippe, entre Coco Gauff et Arina Sabalenka.
Voilà pour le tennis. Le football à présent, avec le championnat espagnol qui vient d'élire le meilleur joueur de la saison. En tout cas, c'est pas le français Kylian Mbappé.
Et non, c'est l'attaquant brésilien du FC Barcelone, Rafinha, auteur lui d'une saison également exceptionnelle avec un triplé Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. C'est donc lui le meilleur joueur de la saison en Liga. L'ailier de 28 ans, crucial dans le parcours du Barça en championnat avec 18 buts et 9 passes décisives, devance donc son coéquipier Lamine Yamal, lui élu meilleur joueur des moins de 23 ans. Et puis à la troisième place, on le disait, le français Kylian Mbappé qui a pourtant terminé Pichichi, meilleur buteur de Liga pour sa première saison au Real Madrid.
Une info du côté de l'Italie.
Oui, la AS Rome qui vient d'officialiser son nouvel entraîneur. Il s'agit de Gian Piero Gasperini qui a longtemps brillé du côté de l'Atalanta Bergame. Il succède à Claudio Ranieri, parti à la retraite. Gasperini, 67 ans, s'est engagé jusqu'en 2028 avec la Roma. Sous la direction de Gasperini, l'Atalanta a remporté la Ligue Europa 2024, le deuxième trophée de son histoire, 61 ans après avoir remporté la Coupe d'Italie 1963.
Sofiane Amazion du basket. Les Pacers d'Indiana ont remporté le premier match des finales NBA contre Oklahoma City.
Et la première équipe à 4 victoires remportera la série et donc le titre de champion. Indiana s'est adjugé donc le match 1 au terme d'un scénario incroyable, Philippe. 111 à 110 grâce à un panier du champion olympique américain Tyrese Haliburton à 3 dixièmes de la fin. C'est le seul moment où les Pacers auront mené dans ce match. Le Camerounais Pascal Siakam a terminé meilleur marqueur de l'équipe avec 19 points. On l'écoute.
Je pense qu'on s'est toujours dit qu'on allait remporter ce match. On ne s'est jamais senti décroché. On s'est concentré sur le plan de jeu et on a continué encore et encore, même si on a commis beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Mais il nous fallait juste passer à autre chose. Avant ce match, j'ai dit à mon équipe que c'était un grand moment. On est tous excités d'être là, mais il ne faut pas s'en satisfaire et jouer un basket simple, car on sait ce dont on est capable. C'était mon message. Nous avons une équipe incroyable avec tellement de joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Donc on a persévéré serré. On savait qu'au bout du compte, on avait une chance.
Et rendez-vous dimanche soir pour le match 2 de ces finales de la NBA entre Oklahoma City et Indiana.
C'est noté. Feuilletons à présent les pages du magazine L'Équipe, hein, qui paraîtra demain. Avec vous, Jean-Michel Brochen, vous êtes son rédacteur en chef adjoint. Alors, la couverture, c'est Dubaï, dernière destination de vacances à la mode des sportifs et surtout des footballeurs. Il faut dire que c'est la fête, hein.
Oui, c'est une destination de vacances très prisée des footballeurs depuis plusieurs années. Ils s'y retrouvent en famille parfois entre eux, parfois tout seul. Alors il y a des zones à la fois de fête, des eaux incroyables. C'est un peu le Disneyland du Moyen-Orient. Et c'est aussi connu malheureusement comme étant un des États les plus répressifs en matière de droits humains. Et puis c'est aussi une grande destination de prostitution dans le monde aujourd'hui, un des endroits où il y a le plus de prostituées dans les grands hôtels, tout ça. Donc bon, tout ça, ça fait un cocktail un peu explosif.
Alors que viennent faire les footballeurs là-dedans? Ils servent de caution?
Bah, c'est un peu du sport washing. Pour eux, c'est une destination à la mode, voilà, parce que bon, footballeurs, souvent, quand il y en a un, deux, trois qui commencent à apprécier un endroit, souvent, bah, c'est un petit peu derrière, ça suit un peu en troupeau. Et aujourd'hui, bah, c'est une destination facilitée aussi parce que les footballeurs, souvent, pour leurs vacances, utilisent les services de conciergerie, donc qui ont leurs entrées, etc., dans un certain nombre de grands hôtels. Donc c'est détente, ils sont tranquilles aussi, hein. Ils postent des photos d'eux en train de s'entraîner, donc il n'y a personne pour les embêter, personne pour surveiller un peu ce qu'ils font.
Donc Dubaï, voilà. Le grand cirque, c'est le titre de cet article, mais faisons une petite incidente concernant le football stricto sensu, le foot dans les Émirats, ça a quand même une vraie existence.
Oui, alors le football dans les Émirats Arabes Unis, ils ont participé une fois à la Coupe du Monde en 1990, mais je dirais que l'aspect sportif, c'est pas le plus développé par rapport à leurs voisins, surtout du Qatar. Bon, bien sûr qu'ils viennent de gagner la Ligue des Champions avec le
PSG,
le Paris Saint-Germain, ou l'Arabie Saoudite qui a développé un championnat qui a attiré les plus grandes stars, qui attire comme Cristiano Ronaldo. Et donc voilà, donc je dirais que chacun de ces pays du Golfe a sa façon à lui d'aborder le football. Sachant que les Émirats sont par ailleurs sponsors eux aussi de grandes équipes comme Manchester City par exemple.
Et c'est pas un hasard s'il y a aussi de la Formule 1 dans cette région. Alors justement, de la Formule 1, enfin presque, Mario Kart, c'est l'objet d'un article dans le magazine L'Équipe, parce que ce week-end sort la nouvelle Switch, la console de jeu, et Mario Kart fait partie, avec ce jeu de course automobile, vraiment des jeux qu'il faut pratiquer.
Oui, c'est l'univers Nintendo, qui au début des années 90 donc a lancé ses premières consoles de jeux, ses consoles de jeux les plus populaires, et qui a créé un jeu de course donc qui s'appelait Mario Kart. Maintenant, ça s'appelle le monde de le Mario Kart World depuis 2017. Là, c'est une nouvelle version du jeu qui va sortir, et ça sera en même temps en adéquation avec la sortie de la Switch 2. Donc faut savoir que Mario Kart, c'est un jeu qui s'est vendu, toutes versions confondues, à presque 190 millions d'exemplaires dans le monde depuis une trentaine d'années. Ben, c'est dû à la fois au côté un petit peu fun vraiment de la pratique, hein, puisqu'on peut jouer à plusieurs. C'était un des premiers enjeux de ce jeu où les gens pouvaient s'affronter les uns aux autres. Le fait que les circuits soient vraiment très très précis ressemble vraiment au plus grand circuit mondiaux, et à la jouabilité, comme on dit un peu dans le milieu des jeux vidéo, hein. Donc c'est une des plus grandes réussites de jeux vidéo depuis une trentaine d'années.
Et puis une fois n'est pas coutume, on va parler de vos pages tendances, car il s'agit d'un Africain sur lequel vous jetez un focus. Il s'appelle Clark Brielle. Pour quelle raison?
Alors c'est un jeune artiste qui est né à Bujumbura, donc au Burundi, il y a 25 ans, et qui adorait le dessin, adorait l'art. Il est venu en France il y a une dizaine d'années. Et petit à petit, il a commencé à se faire connaître un petit peu par des œuvres qu'il réalise sur des tas d'objets différents et des objets parfois surprenants. Il peut par exemple dessiner sur un biscuit avec de la poudre de chocolat. Il peut dessiner sur une pierre avec des feuilles. Et ça se conjugue beaucoup avec l'univers sportif, parce que il gagne de l'argent sur les réseaux sociaux. Les gens lui demandent de réaliser une œuvre. Il se filme en train de la réaliser pendant un temps déterminé. Et c'est assez souvent des portraits de joueurs de foot, des portraits de Léon Marchand, un portrait du joueur du footballeur anglais Jude Bellingham qu'il avait dessiné avec de la farine. Et il est devenu même ami avec certains joueurs. Il commence à avoir des commandes maintenant. Par exemple, le PSG lui a commandé un portrait de Achraf Hakimi fait avec la pelouse du Parc des Princes.
Un mot du portfolio qui est consacré à l'athlétisme, et cela nous emmène aux États-Unis pour une histoire avec un grand H.
Oui, en fait c'est l'histoire donc ce qu'on appelle les Penn Relays. C'est la plus vieille compétition d'athlétisme aux États-Unis. Hein, c'est une compétition qui date de 1895, qui se déroule tous les ans à l'université de Pennsylvanie, donc à Philadelphie, dans un stade qui s'appelle le Franklin Field, et qui est un très vieux stade d'athlétisme. Et chaque année, il y a à peu près 15 000 athlètes qui viennent pratiquer 300 disciplines. Et ça attire, mais encore cette année, ça a attiré plus de 100 000 spectateurs en 5 jours. C'est des photos qui sont magnifiques et c'est une compétition extraordinaire.
Merci Jean-Michel Brochen. Tout cela est donc à lire, à voir, à retrouver dans le magazine L'Équipe.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Ces dernières semaines, une série britannique diffusée sur Netflix a ému, voire choqué beaucoup de monde. Adolescence racontait le meurtre d'une jeune fille par un de ses camarades de classe, radicalisé sur Internet par l'idéologie masculiniste et incel. Incel, c'est l'idée que les hommes n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la violence pour parvenir à avoir des relations avec les femmes. Au Royaume-Uni, le gouvernement a décidé de diffuser la série dans les écoles et le programme a permis de lancer un vaste débat sur la santé mentale des garçons et des jeunes hommes. Emeline va rencontrer des gens qui essaient de faire changer les choses.
Le regard un peu fuyant, les bras tatoués du prénom de ses deux filles, Ben, à 26 ans. Après une enfance difficile, entre un père alcoolique et décrochage scolaire, il se crée une idée très précise du type d'homme qu'il veut incarner.
Un homme traditionnel qui protège, qui ramène l'argent à la maison, s'assure que sa famille a un toit et de quoi manger. Pour moi, c'est ça, être un homme. C'est beaucoup de pression, mais c'est mon choix. Mais je crois quand même que la société a une responsabilité majeure dans ce qu'on attend d'un homme.
How a man should act or say or do.
Et parmi ces attentes, il y en a une qui le touche particulièrement, l'impression de ne pas pouvoir exprimer ses émotions en tant qu'homme.
Ma manière de les gérer, c'était de m'automutiler. Ça n'est pas pour rien que le taux de suicide chez les hommes est si élevé. Nous n'avons personne à qui parler. Pour les femmes en général, vous prenez votre téléphone et vous allez prendre un thé avec des amis. Pour un homme, si j'appelle un pote pour discuter, il se moque de moi.
Après un passage par les drogues et la prison, Ben devient chef cuisinier. Il intègre un groupe de parole pour hommes. Dans ce groupe, son mentor connaît bien le phénomène. Des émotions refoulées, un sentiment d'injustice qui conduisent à la violence, parfois contre soi-même comme pour Ben, mais parfois contre les femmes, surtout depuis MeToo. Chris Hemmings, ex-journaliste devenu thérapeute, intervient dans les établissements scolaires pour lutter contre cette violence.
Ces 10 dernières années, beaucoup a été fait pour aider les femmes, mais les jeunes hommes voient toujours le taux de suicide, le taux de sans-abrisme, d'alcoolisme, et ils se sentent lésés. Ce qu'ils ressentent, c'est une société qui s'occupe des femmes et des filles et qui se fiche d'eux. Je leur dis, ok, mais les femmes, elles se sont battues pour tout ça. À nous de nous battre.
Mais ce genre d'initiative dans les établissements scolaires reste rare. James McCann, cofondateur d'une ONG baptisée Feminist Men, déplore l'espace laissé aux influenceurs misogynes sur les réseaux sociaux.
Certains hommes se sentent seuls, isolés, se demandent comment naviguer dans un monde qui a tellement changé et qui fournit une information accessible. Malheureusement, ce sont ces individus misogynes qui font des femmes un bouc émissaire. Il est là le problème.
Dans son appartement du sud de l'Angleterre, le jeune Ben fixe la mer par la fenêtre.
J'aurais aimé qu'on me tende la main plus tôt. Je pense que je n'aurais pas eu à traverser tout ce que j'ai traversé. Et l'école a un vrai rôle à jouer là-dedans.
Parmi les solutions évoquées par les associations, plus d'investissement pour la santé mentale des hommes, qui représente encore les trois quarts des suicides, et plus de modération sur les réseaux sociaux, voire des restrictions d'accès pour les plus jeunes. Emeline Vint, de retour de Brighton, RFI.
À Brighton, où il est 19h30. À suivre sur Radio France Internationale, l'actualité sur le continent africain au cœur des RFI Soir.
Ce samedi sur RFI,
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Que sont devenus les dragons et les tigres d'Asie du Sud-Est ? Ces économies en pleine croissance, Indonésie, Philippines, Malaisie, Vietnam et quelques autres, attirent les convoitises. Mais face à la guerre commerciale, les pressions chinoises et américaines, ils sont obligés de s'organiser ensemble.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Carrefour du Maghreb.
Explorer l'intime.
Juliette Rangeval.
Comment dire sa singularité sans s'exhiber, sans s'effacer lorsqu'on vit en marge des normes sociales en Afrique du Nord ? Rendez-vous à l'Institut des cultures d'islam à Paris, en compagnie de la commissaire Inès Geoffroy, pour l'exposition « La rhétorique du rideau ».
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.